Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Au lendemain de la plus grande mobilisation jamais recensée en France, avec près de 4 millions de personnes qui ont manifesté dans le pays suite aux attentats de ces derniers jours, je vous propose de parler du traumatisme que provoque le terrorisme. Au même moment, plusieurs attentats avaient lieu au Nigeria. Comble de l'horreur, d'ailleurs, dans l'un d'eux, c'est une fillette de 10 ans qui a déclenché une ceinture d'explosifs posée sur elle. Et Boko Haram a procédé à l'exécution de près de 2000 personnes ces derniers jours, ce qui constitue d'ailleurs le pire massacre jamais perpétré par le groupe islamiste. Les victimes sont principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées. Samedi, deux attentats suicides ont eu lieu dans un café à Tripoli au Liban. Mercredi, c'était au Yémen. Alors quel est l'impact de ces attentats sur le psychisme collectif? Quels sont les traumatismes qui sont générés par ces actes terroristes commis dans le monde? Comment les prendre en charge? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Humbert Boisseau, chef du service de psychiatrie à l'hôpital du Val-de-Grâce, président de l'Association de langue française pour l'étude du stress et du trauma. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone des psychiatres au Liban, en Algérie et au Mali, pays également confrontés à des attentats. Ils nous parleront de ce traumatisme collectif et des moyens de prise en charge. Professeur Humbert Boisseau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. On vous invite toujours dans des moments de sujets douloureux. La dernière fois, et forcément, on a ça en tête, c'était à l'occasion de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, deux journalistes assassinés de RFI à Kidal, au Mali. Une manifestation comme celle d'hier est-elle un moyen, finalement, de surmonter le traumatisme ensemble?
Sans doute qu'une manifestation comme celle qui s'est passée hier est très importante. Pour autant, il faut être prudent, parce que si dans le moment d'émotion initiale que cause un événement comme celui qu'on a vécu, et si cette une telle manifestation est de nature à aider les gens à se rassembler, à être proches les uns des autres, il faut veiller à ce qu'ils n'isolent pas ceux qui l'ont vécu peut-être encore plus directement. Parce que la vie va reprendre et nos politiques, nos hommes politiques, nos responsables, j'espère, vont essayer d'organiser les choses pour qu'elles reprennent dans de bonnes conditions. Mais les personnes qui ont été touchées directement, frontalement par cet événement, vont avoir, elles aussi, tout un parcours à effectuer. Et il faut que ce parcours, elle puisse être accompagnée. Et qu'effectivement, un tel événement, une telle portée collective, il ne les laisse pas au bord du chemin, d'une certaine façon.
Et se réunir ensemble, c'était un moyen de dire « j'ai pas peur » ou « je veux pas avoir peur » ?
C'est sans doute, d'une certaine façon. C'était une façon de se retrouver. J'ai été très, très surpris.
Vous y étiez, hein. J'ai été aussi sur place. Pour ne pas au même endroit, j'ai eu du monde.
Bien sûr, bien sûr. J'ai trouvé quelque chose de tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'il faisait plutôt froid. Ça commençait par quelques gouttes de pluie. Et on avait l'impression, certes, on était tous les uns contre les autres, mais d'avoir très chaud. Qu'il y avait quelque chose comme ça d'une chaleur collective, qui était, à mon avis, extrêmement forte, extrêmement intéressante.
Le traumatisme, comment se manifeste-t-il chez les personnes réellement traumatisées? On ne parle pas simplement d'un impact psychologique, ce dont on parlait, sur l'ensemble de la population, mais quand il y a vraiment trauma, il s'exprime, il se manifeste comment?
Alors effectivement, il faut faire attention à l'utilisation qu'on a de ce terme de traumatisme. Parce qu'il
on
y
l'emploie
a...
un peu à toutes les sauces, c'est ça?
Oh, c'est un terme assez générique, d'une certaine façon, pour signaler qu'il y a eu un impact. Mais l'impact n'est pas forcément le même chez la personne qui a vécu directement le massacre, on peut dire ça comme ça. Et puis, la population qui a été plus à distance, finalement, même si elle est également impactée. Alors, la personne qui a été témoin, finalement, d'un tel massacre, elle va, dans un premier temps, souvent, être complètement décontenancée. C'est quand même ça, la réaction immédiate. Un état de sidération, ou alors un état d'hyperagitation, d'une certaine façon. Et c'est ce qui est important à ce moment-là, c'est que elle puisse rencontrer des gens qui vont lui permettre de s'apaiser.
Et des gens, c'est entre guillemets des psychiatres comme vous, spécialistes de la question, ou ça peut être...
Je crois que dans un premier temps, les personnes qui vont permettre justement de retrouver visage humain d'une certaine façon, c'est-à-dire la possibilité de se parler, la possibilité de s'appuyer sur une épaule, c'est tout un chacun. D'une certaine façon. C'est ce que les anglo-saxons ont appelé le diffusing. C'est-à-dire que dans un premier temps, après une telle horreur, après un tel néant finalement, une telle incompréhension, eh bien, il faut commencer par pouvoir remettre des mots, pour pouvoir se relancer finalement dans quelque chose d'une vie quotidienne où on a besoin de chaleur, où on a besoin de boire un verre, où on a besoin de pouvoir croiser un regard, toutes ces choses-là qui sont effectivement nécessaires dans ce moment aigu. Mais il est bien évident que tout ça, c'est quelque chose d'initial et que...
Donc le premier temps, c'est la sidération, le besoin de parler. Après, c'est quoi dans la manifestation du traumatisme ?
On va avoir différentes possibilités d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qu'on appelle, nous, l'effraction traumatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu ce contact avec la mort, peut se refermer ou avoir donné l'idée qu'il se referme, et puis on va essayer de reprendre quelque chose d'un quotidien, comme ça. Et puis, peut-être plus tard, va réémerger tout un ensemble de choses qui n'ont pas pu être dites et qui vont constituer ce qu'on appelle aujourd'hui les états de stress post-traumatique.
Et c'est quoi souvent les manifestations de départ des cauchemars, une dépression ?
Alors, la symptomatologie on appelle psychotraumatique, a ses caractéristiques. Ses caractéristiques, effectivement, c'est que la personne va revivre l'événement qu'il a vécu. Alors, ça va se traduire par ce qu'on appelle des flashbacks, c'est-à-dire des images qui viennent s'imposer, qui viennent parasiter le champ de la pensée. Donc ça, c'est pendant la journée, et puis la nuit, par des cauchemars. Et tout ça va amener une hyper-réactivité, ce qu'on appelle neurovégétative, qui va justement amener le sujet à être la personne, à être extrêmement mal et à peut-être rechercher un appui, mais également peut-être s'isoler.
Et ça peut être plusieurs mois, mais aussi plusieurs années après l'événement.
Effectivement. Et dans un événement comme celui qu'on vient de vivre là, on a pu rencontrer un certain nombre de personnes qui ont vécu antérieurement des traumatismes qu'elles avaient pu leur semble-t-il
gérer,
oui, auxquels elles avaient pu faire face et qui vont réapparaître comme ça. Donc c'est une, on va dire, une catégorie de personnes, de population qui nécessite une attention toute particulière parce que, je veux dire, deux fois, ça fait beaucoup.
Et on verra justement tout au long de cette émission quelle est la prise en charge, comment on peut surmonter ces difficultés. On a au téléphone le docteur Chaoué Azouri qui est chef du département de psychiatrie à l'hôpital du Mont-Liban à Beyrouth. Au Liban. Docteur Chaoué Azouri, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé. Le Liban a été confronté à des années de terrorisme. Encore samedi, deux attentats suicides ont été perpétrés dans un café de Tripoli qui ont fait 9 morts, 37 blessés. Quel est l'impact de ce terrorisme sur le psychisme des Libanais sur le long terme ?
La guerre civile a commencé en 1975, donc le 13 avril de cette année, ça va faire exactement 40 ans. Donc il y a, si vous voulez, des impacts différents, des premiers traumatismes qui ont été liés à la première partie de cette guerre civile, et des traumatismes qui y ont été différemment absorbés, on va dire, par les Libanais, et jusqu'à là, jusqu'à dernièrement. Alors, je peux vous dire une chose qui caractérise les Libanais. C'est une métaphore qui me vient, qui donne l'idée que les Libanais ont été vaccinés. Ce qui veut dire exactement comme dans l'effet d'un vaccin, on est touché dans un premier temps, effondré, et puis au fur et à mesure que les expériences se répètent, hein, on l'est moins. Ce qui ne veut pas dire que le trauma disparaît ou a un moindre effet immédiatement, hein, mais dans l'après-trauma, eh bien, on peut percevoir une rapidité dans la réconciliation des Libanais, si vous voulez, avec la vie quotidienne. Je le dirais simplement comme ça.
Vous publiez aujourd'hui une tribune dans le journal libanais L'Orient, intitulée « La haine du rire ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ce que je veux dire par là, c'est que Charlie Hebdo n'a pas été attaqué seulement comme un journal, et les caricaturistes seulement comme de simples journalistes, si vous voulez. Je pense que ceux qui fichent la trouille le plus, hein, aux djihadistes, aux extrémistes, aux obscurantistes, dans le rire et dans l'humour, c'est le fait que, à travers l'humour et le rire, on ramène ce qui est refoulé, on ramène ce qui est interdit et ce qui est tabou. On se moque de tout. Alors, en partant de là, hein, le rire, à mon sens, le rire, l'humour est le pire ennemi des obscurantistes, hein, parce qu'il donne accès aux citoyens, au public, il donne accès à ce qui est oublié, refoulé, interdit et tabou. Voilà, c'est ça.
Donc gardons notre sens de l'humour.
Ah oui, ah oui. Je ne sais pas si vous avez... Je peux vous raconter une petite histoire qui a eu lieu entre deux de mes amis en 78.
Que vous racontez au début de cet article, racontez-le.
Voilà. Alors, c'est une histoire vraie. Deux amis venaient de Paris, rentraient à Beyrouth. L'un d'eux était à Paris pour le baptême de son neveu et l'autre revenait après un long moment. Avant d'atterrir, le premier, donc tous les deux chrétiens, Tony, donc Tony dit à Joseph, attention, c'est très grave à Beyrouth, on assassine des gens selon leur appartenance confessionnelle écrite sur la carte d'identité. Donc ne m'appelle pas Tony quand on va prendre le bus qui va nous ramener de l'avion à l'aéroport. L'autre lui dit oui, très bien. Arrivé dans le bus qui était bondé, étourdi, comme ça, un peu Pierre Richard, si vous voulez, mon ami Joseph dit à Tony, mais finalement tu ne m'as pas dit, où est-ce que vous avez baptisé le neveu? À ce moment-là, hein, il y a dans le bus une chape de plomb mortifère qui tombe dessus. Lui, réalisant
l'énorme
qu'il avait fait, et il ajoute tout de suite, vous l'avez baptisé dans quelle mosquée? Et à ce moment-là, quand il dit vous l'avez baptisé dans quelle mosquée, il y a un fou rire qui prend tout le bus entier, et tout le monde oublie qu'il peut être chrétien, musulman, juif ou autre, et tout le monde rit, et tout le monde, du fait du rire, tout le monde se retrouve. Je trouve cette histoire vraie, exemplaire, de comment le rire peut nous faire dépasser, si vous voulez, les raisons fratricides, de nous faire la guerre.
Comment, vous l'avez dit, il y a des attentats et du terrorisme depuis des années au Liban, il y a une forme d'habitude, même si vous l'avez aussi dit, on ne s'habitue pas vraiment, le traumatisme reste le même. Comment s'exprime ce traumatisme? Est-ce qu'il s'exprime de façon différente, justement, suivant la culture?
Je ne pense pas, si vous voulez, suivant la culture. En tout cas, je n'ai pas eu, moi, l'occasion de le constater. Je peux vous dire, il peut changer selon la qualité des armes qui sont utilisées. Dans la guerre de 2006, l'UNICEF m'avait demandé de diriger une mission. Et donc, je suis allé très près des personnes qui ont été blessées, mortifiées par la guerre avec Israël. Eh bien, une des choses qui était le plus étonnante, c'est de remarquer du fait que les Israéliens utilisaient pour la première fois des bombes qui pouvaient traverser toute la hauteur des immeubles, pour n'épargner personne, et exploser en bas. Pas en haut, en bas. Donc les bombes traversaient les immeubles et explosaient en bas. Donc, si vous voulez, les gens ne savaient pas d'où venait l'impact. Et donc, ils ont été saisis de confusion mentale, un peu pour continuer la discussion que vous avez eue avec mon collègue. Donc, il y a un sentiment de confusion mentale, au sens médical du terme, mais à un point où les gens perdent leur identité. M'est arrivé de rencontrer une fillette qui était sortie de sa maison, qui venait d'être bombardée, et on lui demandait son nom, elle ne savait plus. Elle ne savait plus qui elle était, comment elle s'appelait, qu'est-ce qu'elle faisait là, quoi. La confusion totale. Ou si vous voulez, des mécanismes de deuil terrifiants qui démarrent d'une manière terrible, et où les gens ne savent plus quoi faire. Ils vont à l'église ou ils ne vont pas à l'église. Ils voyagent ou ils ne voyagent pas. Ils restent sur place où ils bougent. Mais c'est cette confusion, à mon sens, donc pour reprendre votre question précisément, la réaction au traumatisme dépend, entre autres, des moyens utilisés pour faire la guerre.
Professeur Humbert Boisseau, j'imagine que vous avez envie de réagir parce que je vous vois prendre beaucoup de notes de ce que dit le docteur Chaoué Azouri.
Oui, bien entendu. Il y a beaucoup de choses qui me semblent tout à fait intéressantes, et notamment cette dernière remarque par rapport aux moyens finalement de la guerre, les moyens trouvés par les terroristes ou la guerre en général, d'une certaine façon, pour traumatiser les gens.
Parce que c'est bien ça le but.
Bien entendu.
C'est traumatiser.
Bien entendu. Et je trouve que. Je ne sais pas si vous me permettez de revenir finalement sur la succession de ce qui s'est passé à Paris, là. Parce que je trouve qu'elle est tout à fait intéressante à aborder. Finalement, c'est quelque chose qui effectivement a été extrêmement bien préparé, extrêmement bien coordonné pour justement créer le maximum d'impact traumatique. Finalement, on commence par assassiner des journalistes. Pas n'importe quel journaliste, des journalistes qui utilisent également le dessin. Le dessin, c'est l'arme favorite, pas l'arme, le moyen favori des enfants, par exemple, pour s'exprimer. Hein. Donc, on commence immédiatement. Alors, ce qui a été très intéressant à ce moment-là, c'est que finalement, quand on a appris ça, on a eu envie de descendre dans la rue. C'est-à-dire que ça n'a pas isolé les gens, mais ça les a amenés plutôt à se retrouver pour essayer de parler. Et là, qu'est-ce qui se passe? Deuxième temps. On assassine un gardien de la paix, une gardienne de la paix. C'est-à-dire quelqu'un qui est là justement pour assurer la sécurité publique. Comme si finalement il y avait quelque chose auquel il fallait s'affronter. Et puis troisième temps, eh bien on va cibler une communauté. On va cibler une communauté pour différencier justement les individus à l'intérieur de la société française qui s'est toujours voulue intégratrice d'individus et pas de groupes particuliers. Et on voit comment toute cette succession amène finalement à traumatiser les gens, et traumatiser les gens très largement, c'est-à-dire avec des impacts qui sont sans doute différents pour les uns ou les autres.
Alors ça traumatise un ensemble de populations, mais ça les a aussi réunis. Moi j'ai été frappée pendant cette manifestation hier du nombre d'affiches avec « je suis Charlie, je suis juif, je suis policier, je suis musulman ». On a l'impression qu'en fait là-dessus, le terrorisme rate son coup parce que ça a au contraire rassemblé des populations. L'exemple, c'était Netanyahou, finalement, pas loin du leader palestinien. Enfin, ils n'étaient pas à côté, mais il y avait trois personnes entre eux.
Sans doute. Je crois qu'effectivement, la réaction immédiate et la façon dont les choses se sont organisées, à mon avis, est extrêmement positive. Mais, comme on a pu l'évoquer, il est important que cette vague, finalement, ne se termine pas comme ça et n'oublie pas, finalement, ceux qui ont été les plus directement impactés.
Dans cette... Docteur Chaoué Azouri, quels sont les moyens de prise en charge de ce traumatisme que vous avez au Liban? La psychiatrie est assez développée, même très développée au Liban.
Oui,
vous allez nous dire que vous n'avez pas assez de moyens, mais je pense que le professeur Humbert Boisseau vous dirait la même chose.
Non, je pense que la France, où j'ai travaillé quand même 30 ans, si vous voulez, comme psychiatre, dans un dispensaire à Créteil, dans le secteur du Val-de-Marne, j'ai bien connu, très très bien connu la psychiatrie française, et je pense que c'est vraiment la meilleure dans le monde. Non pas comme ça parce que je suis aussi français et que j'aime la France, mais parce que les moyens utilisés, rien que dans la psychiatrie, dans ce qu'on appelle la psychiatrie de secteur, ont été absolument fantastiques. Il y a un dispensaire, il y a un hôpital de jour, il y a des appartements thérapeutiques, il y a un service pour hospitaliser. Donc tout ça n'existe malheureusement pas au Liban. Ce qui fait que on s'appuie sur la débrouillardise des Libanais. Donc à part certains hôpitaux psychiatriques qui existent, et donc des psychiatres qui travaillent dans le privé, et beaucoup de psychologues aussi, on n'a pas la possibilité publique de pouvoir aider les gens.
Vous restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, le professeur Humbert Boisseau aura aussi envie de réagir.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du traumatisme généré par les attentats, bien sûr, celui de Charlie Hebdo, ceux qui ont eu lieu la semaine dernière aussi dans le supermarché Cacher en région parisienne, mais également ce qui se passe en ce moment au Nigeria, au Liban ou également au Yémen. Je reçois le professeur Humbert Boisseau, chef du service de psychiatrie de l'hôpital du Val-de-Grâce, président de l'Association de langue française pour l'étude du stress et du trauma. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et juste avant les informations, on était au téléphone avec le docteur Chaoui Azouri, chef du département de psychiatrie à l'hôpital Montliban à Beyrouth, au Liban. Professeur, docteur Azouri, vous étiez en train de nous expliquer les bienfaits, je dirais, de la psychiatrie française et des moyens que nous avons. Professeur Humbert Boisseau, vous avez quand même envie de recadrer un peu les choses. Les moyens vont plutôt en baissant en termes de psychiatrie, c'est ça? Ou en tout cas de psychiatrie de proximité?
Mais effectivement, je crois que la France a été pionnière dans avec la sectorisation et avec la mise en place, comme vous le disiez tout à l'heure, comme le disait tout à l'heure notre collègue du Liban, toute une structuration sociale, médico-sociale, qui permettait justement aux gens en souffrance psychique de trouver des interlocuteurs et d'être soignés. Et c'est vrai que l'évolution des choses, l'évolution également sociale, l'évolution aussi des moyens, hein, font que toute cette structuration, sous certains aspects, est mise en difficulté, d'une certaine façon. Et je crois que c'est tout à fait important de ne pas oublier que chacun, individuellement, peut avoir besoin, à un moment donné, d'une aide spécifique, et que...
Ça vaut le coup de se faire aider.
Ça vaut, tout à fait.
Docteur Chaoui Azouri, juste une dernière question, mais quels sont les moyens de prise en charge que vous avez devant des cas de traumatisme?
Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la débrouillardise, et ça se passe très individuellement. Quand quelqu'un vient d'être traumatisé, que ce soit par bombe, agression, terrorisme, enfin, on l'hospitalise. Hein, et là, on met en place ce qu'en général, un peu partout dans le monde, on met aujourd'hui, parce que, comme le disait tout à l'heure le professeur, hein, on a des techniques lié à l'observation qui dure depuis des dizaines d'années et qui fait qu'on ne se trompe plus aujourd'hui quand on accueille un traumatisé, dans le sens où on lui laisse petit à petit la place pour revenir à la réalité, dans le sens aussi où s'il fait des rêves traumatiques, ne pas considérer nécessairement ces rêves traumatiques comme étant juste pathologiques, mais comprendre qu'il a besoin de faire des rêves traumatiques pour pouvoir enfin maîtriser ce qui s'est passé. Bien entendu, la médication, hein, qui est aujourd'hui très riche, et l'accueil, et surtout, le fait d'entourer le traumatisé est quelque chose de fondamental.
Merci beaucoup, hein, docteur Chaoui Azouri. Je rappelle que vous êtes chef du département de psychiatrie à l'hôpital du Mont-Liman à Beyrouth. On a maintenant au téléphone le professeur Baba Koumaré, qui est chef du service de psychiatrie au CHU de Bamako au Mali. Professeur Baba Koumaré, bonjour.
Bonjour, Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Comment s'exprime le traumatisme dans la population malienne, bien confrontée, hein, je dirais, à un traumatisme depuis ces deux dernières années?
Merci. Je crois qu'avant d'aller plus loin, il faut parler de cette question du traumatisme, qu'il faut différencier de la question du stress d'une manière générale. Le trauma tel que vous le posez, je crois, comme mes collègues ont eu à l'évoquer, il s'agit là d'un traumatisme psychologique qui, en fait, pose le problème de la proximité de la mort, l'imminence de la mort. Il y a comme une effraction. En ce moment-là, c'est totalement quelqu'un qui a vécu ce moment-là et l'imminence de la mort et qui en est sorti, ça pose un autre problème que ceux d'autres qui l'ont vécu à distance. Ceci dit, la question du traumatisme m'interpelle, moi, en tant que citoyen et patriote, mais aussi en tant que professionnel de santé. Et en tant que Malien, je sais de quoi je parle, dans la mesure où, depuis les années 2011-2012, nous avons été confrontés à cette réalité, et qui nous est tombée pratiquement sur la tête, un choc. Et je crois que nous sommes encore sous le coup. Parce que nous, en tant que professionnels de santé, le problème, nous devons le gérer à chaud et à froid, à distance de ce problème. Voilà la situation actuelle. Et les événements de Paris sont venus tout simplement raviver pratiquement tout cela. Et tout ce qui se passe autour de nous, au Nigeria et dans d'autres pays. Oui.
On a vu d'ailleurs, je voulais vous faire réagir à ça sur nos messages Facebook, beaucoup de réactions disant mais pourquoi une minute de silence, pourquoi en faire autant pour, je dirais, 17 morts en France quand il y en a aussi des milliers sur le continent africain. Une réaction de gens qui finalement disent mais nous on n'en fait pas autant, on n'en parle pas autant. Qu'est-ce que ça vous évoque ce genre de réaction ?
Je crois qu'il faut prendre la distance par rapport à tout cela. Dans la mesure où les émotions, quand il y a certains événements qui arrivent, il est évident que chacun va l'interpréter à sa manière. Il est évident aussi que nous souffrons tous, à un moment donné, ce moment. Nous savons que, par exemple, l'Algérie, pendant les années 90, a vécu ces phénomènes pendant près de 10 ans et pratiquement personne n'en a parlé. C'était un problème purement algérien, algéro-algérien. Et quand le problème du Mali s'est posé, à un moment donné, ça s'est posé comme un problème maliano-malien. Et bien entendu, et maintenant, on se rend compte que c'est en réalité un problème mondial, que ce n'est pas du tout circonscrit à un pays, et que c'est vraiment un fléau, un phénomène qui est en train de se développer. Et c'est à ce titre. Et chacun le vit à sa façon. Donc chaque mort compte. Et quand on a l'impression que... Et c'est ça le phénomène. Et c'est ça qui fait le terreau, justement, qui favorise les terroristes à un moment donné dans leur... Parce qu'on leur donne l'impression qu'il n'y a pas... qu'il y a deux poids, deux mesures, qu'il y a une certaine injustice. Voilà, c'est le mot le plus important, injustice. À un moment donné, quand on a l'impression que c'est injuste qu'on ne puisse pas s'apesantir, s'apitoyer sur le sort de certains, et que d'autres ont un sort beaucoup plus réservé. En ce moment-là, je crois que les gens s'indignent devant cette situation. Mais en réalité, cela ne veut pas dire qu'on néglige tel ou tel aspect. Mais ça veut dire tout simplement qu'il faut prendre, justement, il ne faut pas négliger aucune mort et que tout est important. Et comme on le dit chez nous ici, et c'est ce qui fait le problème, que toute vie est une vie, aucune vie n'est supérieure à une autre. Et dès l'instant, et même quand vous avez vu avec le problème des otages maliens, certains se sont indignés parce que quelque part, ils ont eu l'impression qu'on a troqué une vie contre 4 ou 5. Vous vous rendez compte? C'est la façon dont les gens vont apprécier le problème. C'est ça qui fait que des réactions comme ça peuvent se susciter. Mais au fond de nous, nous avons tous le même objectif. C'est lutter contre vraiment ce terrorisme qui n'est que dévastateur.
Quels sont les moyens de prise en charge de ce syndrome de stress post-traumatique que vous avez au Mali?
Les moyens de prise en charge, et là, ça c'est du point de vue en tant que professionnel de santé. Je pense que d'une manière générale, tout notre système de santé est bâti justement sur la prise en charge beaucoup plus de tous les phénomènes physiques, le problème de la santé en tant que sur le plan, sur la dimension, surtout physique. Tout est organisé pratiquement sur ce plan-là. Et la dimension psychologique, dimension sociale, qui fait que la définition même de l'OMS, même quand bien même elle serait presque utopique, un état complet de bien-être physique, mental et social, il faut reconnaître que les deux dimensions sont presque occultées. Et que la santé mentale, pour moi, la bonne santé mentale permet de résoudre un certain nombre de problèmes liés à ce traumatisme, dans la mesure où une bonne santé mentale, c'est être bien dans sa peau.
Et vous êtes
à l'aise avec les autres.
Tout à fait. Et vous êtes combien Oui. Professeur Koumaré, vous êtes combien de psychiatres au Mali?
Nous sommes moins d'une dizaine. Et c'est ça, la situation. Pour vous dire qu'en principe, on devrait mettre l'accent sur un certain nombre de choses. La formation et des psychiatres et de tous les professionnels de santé mentale. psychiatres, neurologues, neuropsychiatres, vous voyez, psychologues, tout ceci fait défaut. Je crois que dans la prise en charge, on ne peut pas occulter cet aspect-là.
Ce qui est très important. Professeur Humbert Boisseau, vous aidez justement à la formation de psychiatres au Mali.
Écoutez, je suis tout à fait touché d'entendre le professeur Koumaré parce que effectivement, on vient de d'avoir dans le service un jeune psychiatre malien qui est en ce moment de retour au pays pour mettre en place, j'imagine, avec le professeur Koumaré, tout un ensemble de dispositifs. C'est un jeune psychiatre militaire qui a donc fait sa formation à Paris, sa formation de psychiatre, qui a terminé par un travail de fin d'études justement sur la question du trauma, mais dans une approche tout à fait intéressante, c'est-à-dire dans le deuxième temps finalement, ce temps où on a l'impression que le trauma est refermé, alors qu'il n'est pas forcément refermé, et qu'il y a lieu justement à ce moment-là d'avoir toute l'attention nécessaire pour justement pas oublier les gens. Donc je suis tout à fait touché, et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble pour justement aider ce pays qui se structure. Et ce qui a été souligné par le professeur Koumaré j'allais dire quelque chose de nouveau dans l'intérêt porté à la dimension psychosociale me semble tout à fait majeur et tout à fait important.
Professeur Koumaré, j'ai juste une dernière question à vous poser. J'étais très intéressée de ce que vous avez dit sur le sentiment d'injustice quand on parle plus de victimes d'attentats dans les pays occidentaux que dans les pays du Sud. Vous avez raison de nous le rappeler. Il y a autre chose, moi, qui me perturbe beaucoup depuis quelques jours, c'est tous les messages d'appel à la haine qu'on a sur Facebook, sur nos pages Facebook de RFI. Moi, je me sens très démunie par rapport à ça et toujours beaucoup de mal à comprendre.
Oui, je pense qu'il y a une chose, là, je voulais le rappeler ici, la dimension de l'humour. L'humour est que, justement, que représente Charlie Hebdo d'une manière générale. Je crois que pour nous, parce que nous utilisons ici une technique particulière qu'on appelle le côté bas, qui est pour la prise en charge des problèmes de santé mentale, des malades mentaux, et qui utilise l'humour est au cœur, justement, de cette intervention. C'est pour vous dire que pour nous, l'humour, c'est une parole. Elle peut être entendue un peu partout. Chacun l'interprète à sa manière. Et la parole, elle est délicate. La parole a besoin pour s'exprimer, pour être compris, pour être enregistré, il y a un lieu pour le dire. Il y a un moment pour le dire. Il y a une façon de le dire. Et il y a des personnes pour le dire. Ça veut dire que ça renvoie au code et au cadre. Quand ces éléments ne sont pas respectés, eh bien, vous ne pouvez pas faire appel au sens de l'humour de l'autre. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. L'humour, ce n'est pas, on ne peut pas transposer son humour sur l'humour des autres parce que nous avons, notre sens d'humour n'est pas le même. Et à partir de ce moment-là, je dirais, là où les images sont bannies, peut-être vous pouvez utiliser autre chose dans la religion. Et ça, j'interpelle tous les humoristes du monde arabe aujourd'hui. Pourquoi ne pas utiliser la calligraphie qui ne représente pas la calligraphie à travers cela? Mais en se disant que l'écriture pose des problèmes, voir le cas de Salman Rushdie dans les versets sataniques, quand il a voulu aller sur un autre plan, vous voyez tout ce que ça amène comme réaction. Il faut savoir se retrouver, réfléchir et voir. Parce que quand on communique, là, tous les communicateurs le savent, le cadre, les dispositifs, les codes, c'est extrêmement important. Voilà ce qui explique un peu cette disparité dans l'intervention des uns et des autres.
Merci beaucoup, professeur Baba Koumaré. Je rappelle que vous êtes chef du service de psychiatrie au CHU de Bamako, au Mali. Professeur Humbert Boisseau, c'est quoi la prise en charge d'une personne victime de syndrome de stress post-traumatique? On fait quoi? On fait comment? Beaucoup la parole, mais pas que, des médicaments aussi?
Bien entendu. Je crois que ce qui est intéressant aussi de dire, ce qui est important de dire, c'est que tout ça arrive dans une espèce de continuité, d'une certaine façon. Je crois que c'est important de rappeler que la personne traumatisée psychique, avant d'arriver auprès d'un thérapeute, est passé par tout un ensemble de rencontres, et de rencontres qui, si elles se passent bien, peuvent l'amener justement à un travail thérapeutique. Si elles se passent pas bien, peuvent amener à une fermeture et à un isolement, parce que le risque du traumatisme psychique, le risque majeur du traumatisme psychique, c'est l'isolement.
Il faut du temps avant d'arriver chez vous, entre guillemets.
Donc il faut un certain temps, souvent, effectivement. Et puis, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué, ou quelle personne n'est habituée. Donc c'est vrai que le réflexe est souvent de se dire je vais y arriver tout seul. Or, dans ce genre de rencontres traumatiques, je crois qu'on peut dire qu'on n'y arrive pas tout seul. Donc, il est important de pouvoir parler. Et ce que disait le professeur Koumaré me semble important, c'est-à-dire que parler, c'est une chose, mais savoir où on parle, à quel moment on parle, il y a une temporalité qui est propre à chacun, de quelle façon l'on parle, à qui l'on parle, ce sont tout un ensemble de données qui sont très très importantes pour espérer, j'allais dire, sortir de cette rencontre traumatique, pour pouvoir pas l'oublier, mais faire qu'elle soit moins douloureuse et qu'on puisse reprendre le cours de la vie.
Et donc la parole, un point essentiel de la prise en charge, et puis après dans les médicaments, des antidépresseurs, des anxiolytiques, c'est ça ?
Oh, les médicaments, effectivement, on n'a pas de médicaments contre le syndrome de stress post-traumatique, ça il faut le dire très simplement.
Il y a des recherches là-dessus, ceci dit ?
Il y a des recherches, mais les recherches, vous savez, c'est comme dans l'ensemble de la pharmacopée psychiatrique, elles avancent pas beaucoup, d'une certaine façon. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est important de dire, c'est que ces pathologies psychotraumatiques entraînent tout un ensemble de symptômes douloureux, de troubles du sommeil, de troubles anxieux, d'hyper-réactivité, et que tout un ensemble de traitements anxiolytiques, antidépresseurs, parfois même, mais alors aujourd'hui c'est un sujet de grande controverse aux États-Unis, même des antipsychotiques ont pu être utilisés pour essayer d'atténuer la souffrance psychique. Et donc ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est sujet d'une grande controverse.
En Algérie, le carnage contre Charlie Hebdo a fait replonger une partie des journalistes algériens dans les affres de la décennie noire des années 90, durant laquelle d'ailleurs des dizaines de membres de journalistes de la profession furent assassinés. Des actes de terrorisme ont toujours lieu aujourd'hui. On pense à l'assassinat entre autres d'Hervé Gourdel en septembre 2004. Docteur Mahmoud Boudarène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre à Tizi Ouzou, en Kabylie, en Algérie, ancien député. Vous avez publié un livre, Le stress entre bien-être et souffrance. Comment se manifeste le traumatisme dans la population algérienne ? Vous allez entre autres nous parler de violence, dont on a finalement assez peu parlé jusqu'à maintenant.
Oui, si vous voulez, si on doit parler de la manifestation du traumatisme psychique à l'échelle de l'individu, je crois que votre invité a bien décrit ce qui se passe, et je crois que c'est tout à fait comparable. Les Algériens manifestent quand ils ont vécu un événement traumatique et important, manifestent exactement la même chose que ce qui se passe par ailleurs. Par contre, sur la société, je pense qu'effectivement, il faut rappeler peut-être que l'Algérie a été surprise par le phénomène du terrorisme et par son ampleur, parce qu'il y a eu des massacres collectifs, aucun pan de la société n'a été épargné, les enfants, les femmes, les journalistes, les médecins, les intellectuels, tous les pans de la société ont été concernés, et les massacres se sont faits pratiquement en masse. Et je crois que ça, c'est ça qui a essentiellement traumatiser la société, d'autant plus que le terroriste pouvait être le l'enfant du quartier, le voisin ou même parfois un membre de la famille. Donc tout ça a constitué une espèce de traumatisme d'une violence inouïe, hors du commun, puisque c'est le terme qui est consacré, qui fait que la société a été prise au dépourvu. La société au sens large du terme, mais aussi les praticiens de la santé, parce que nous aussi, on connaissait pas très bien, on était démunis vis-à-vis de ce phénomène. Les pouvoirs publics aussi ont été surpris par l'ampleur du phénomène et par les répercussions sur les individus et sur la société, ce qui fait que nous avons été pratiquement en état de sidération pendant plusieurs années avant de pouvoir progressivement commencer à nous organiser pour apporter quelques solutions appropriées à l'échelle de l'individu et à l'échelle de la société. Et pour signifier quelle ampleur de cette difficulté pour la société algérienne, j'en veux pour preuve les décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics pour essayer d'apaiser la société, parce que vous savez sans doute que l'Algérie a voté une loi qui s'appelle la loi sur la concorde civile, qui est devenue après réconciliation nationale, et là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Il y a sans doute l'ignorance du phénomène des pouvoirs publics, mais il y a peut-être aussi une volonté politique de faire une omerta un peu sur ce qui s'est produit dans la société algérienne. Voilà.
Et quand on a préparé cette émission, ce que vous m'avez dit aussi, c'est que finalement, vous trouviez que la société algérienne était violente et que cette violence, justement, s'était répercutée dans la population de façon différente, pas simplement avec des attentats.
Oui, voilà. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que aujourd'hui, si on peut évoquer les effets du terrorisme, de la décennie noire que nous avons vécu, les effets sur la société, c'est qu'aujourd'hui, la société algérienne est devenue une société violente. C'est les effets, c'est le prolongement de cette violence que nous avons vécue. Pourquoi ? Parce que le terrorisme a démantelé les mécanismes régulateurs qui font que la société peut vivre apaisée. Le lien social a été démantelé, les gens n'ont plus confiance, les gens les interdits fondamentaux que les uns et les autres ont intégrés pour vivre en commun, pour avoir le respect, pour réguler les relations entre les individus ont été démantelés, ce qui fait qu'aujourd'hui la violence est devenue presque ordinaire, presque banale, et je pense que c'est un des effets de la rupture de ce lien social, et c'est un des effets du traumatisme qu'a vécu la société algérienne. Mais en même temps, il y a cette violence-là, effectivement, qui est ordinaire maintenant, quand on observe dans tous les aspects de la vie en Algérie, violence routière, agression dans les rues, incivilité, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est, à mon avis, important, c'est peut-être paradoxal, c'est que la société algérienne est aussi très inquiète. La société algérienne, par exemple, quand il y a eu le fameux printemps noir, quand il y a eu les fameux printemps arabes, l'Algérie, le peuple algérien a refusé de s'engager là-dedans parce que justement ils ont le souvenir de la décennie noire et ils ont peur justement que nous revivons la même période.
Il y a tout ça qui ressort. Oui. Merci beaucoup, docteur Boudaraigne. Une réaction, professeur Imbert-Boisseau, sur cette question de la violence, finalement, générée, justement, à long terme, à la suite de violences dans la société.
Une réaction pour dire que, effectivement, une société qui ne parvient pas à réguler ou à faire face, ou à aider les individus à faire face justement au traumatisme ou à l'impact qu'ils peuvent vivre de certaines situations violentes, amène justement à une distension du lien social. C'est pour ça que je trouvais tout à l'heure important de souligner comment la réaction de la population française, quand on a appris cet événement, ce drame de Charlie Hebdo, a été de descendre dans la rue, de se retrouver. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement...
Et justement, dire ces attentats ne vont pas nous diviser, mais au contraire, peut-être nous rassembler.
Exactement.
Hein, c'est important. On a Rodrigue qui attend depuis un moment au téléphone, qui est à Ouagadougou, Burkina Faso, et qui a une question à vous poser. Rodrigue, bonjour, on vous écoute.
Oui. Bonjour.
Allez-y, on vous écoute, Rodrigue.
Moi, je suis tombé par hasard sur les premières images très violentes de l'attentat à Charlie Hebdo. Alors, face au choc qu'on ressent, comment se comporter face à des images violentes comme ça?
C'est ça, ces images sont traumatisantes. Je voudrais aussi, professeur Imbert-Boisseau, vous lire un message de Marie qui est à Pantin, en région parisienne, et qui dit « Mon fils fait des cauchemars depuis jeudi. Pourtant, nous ne lui avons pas montré d'image de l'attaque, mais il en a parlé avec d'autres enfants à l'école. Que faire pour le rassurer ?»
C'est effectivement tout à fait important de pouvoir le rassurer. C'est tout à fait important de pouvoir parler justement des images, si on entend bien Rodrigue. Effectivement, présenter des images sans les commenter, sans les annoncer, c'est quelque chose qui peut être extrêmement traumatisant, extrêmement violent, parce que c'est quelque chose qui peut apparaître sans la médiation de la parole, et donc sans protection, d'une certaine façon. Alors, justement, si on reprend la question en ce qui concerne les enfants, c'est vrai que la médiation de la parole est quelque chose de tout à fait important. Et la place que peuvent avoir les parents, la place que peuvent avoir les enseignants pour répondre finalement à ce que vont dire les enfants ou à la façon dont ils vont exprimer leur questionnement. Parce que ce que disait Marie-France
Marie, c'est ça.
Tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y avait son fils présentait tout un ensemble de troubles, de troubles qui étaient pas très importants, mais en tout cas de craintes, et que sa difficulté était comment répondre à ça. Je crois que la question première justement, c'est de permettre aux enfants de pouvoir exprimer les choses. La deuxième question, c'est de pouvoir en parler avec eux dans quelque chose qui est quelque chose de rassurant, mais pas quelque chose qui est rassurant n'importe comment, c'est-à-dire qui amènerait justement à fermer la parole de l'enfant et à le rendre incapable finalement de s'exprimer. Donc c'est quelque chose qui se fait progressivement, c'est pas quelque chose qui se fait immédiatement.
On retiendra bien dans cette émission parler, c'est vraiment important. Merci beaucoup professeur Humbert Boisseau. On reviendra certainement dans quelques temps sur toutes ces questions et demain nous parlerons de l'épidémie d'Ebola. Vous pouvez bien sûr nous appeler comme d'habitude.